En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
La voix et l'éloquence dans la composition musicale, c'est le titre de la conférence animée par le sociologue Bruno Latour, le compositeur Philippe Leroux, le musicologue Nicolas Donin et la soprano Valérie Philippin. Bruno Latour explore avec le compositeur Philippe Leroux l'éloquence et la persuasion d'une théâtralité vocale devenue l'archétype d'une deuxième œuvre de l'artiste, Apocalypsis. Leur discussion est accompagnée par les analyses du musicologue Nicolas Donin et les performances vocales de la soprano Valérie Philippin. Canal Académie retransmet cette conférence qui se déroulait en juin 2010 à l'IRCAM dans le cadre du Festival Agora. Écoutez Bruno Latour en préambule nous présenter cette conférence.
Ce n'est pas une soirée musicale, mais une soirée de transposition entre plusieurs médiums différents. Nous en avons choisi trois, 3+1. Nous avons imaginé un dispositif en triangle. Le compositeur, Philippe Leroux, l'interprète, Valérie Philippin, qui connaît depuis très longtemps Philippe, avec lequel je suis lié, toujours par alliance, par un long compagnonnage, et l'analyste, Nicolas Donin, qui fait partie de cette maison et qui a longuement travaillé avec Philippe. Et donc je vais leur demander, en votre nom, parce que je fais partie du public, de jouer ensemble en se faisant passer, un, des partitions, deux, des interprétations, trois, des analyses de ces participations et de ces interprétations, et évidemment, ils ont le droit de changer de rôle. C'est dans ces passages, dans ces allers-retours, que nous, le public, nous devrions être capables de saisir quelques-unes des manières de composer. Et moi, si je le peux, j'attraperai au vol quelques-unes de ces formes pour enrichir ce qu'on pourrait appeler le solfège de la composition, qui me semble tellement différent de celui que nous avons appris avant. Nous attendons de vous trois une leçon de justesse. Au lieu d'aller de la monade, de la cellule vers le complexe, écrit Philippe Leroux dans Musique, une ère de jeu, je pars d'une pluralité d'éléments et j'essaie de trouver ce qui leur est commun. Je cherche le geste qui unifie l'ensemble de ces matériaux. Et il ajoute cette phrase énigmatique, cela n'est pas sans rapport avec la fin de l'expansion économique et politique que vit notre société. C'est comme s'il fallait trouver le sens qui unifie toutes les découvertes réalisées ces 100 dernières années, une sorte de vision écologique. Fin de citation. Le court-circuit peut vous paraître vertigineux entre une manière de composer de la musique et des questions politiques, mais c'est ce court-circuit qui nous rassemble ce soir.
C'est au tour de Nicolas Donin de nous donner le déroulement de la conférence et les extraits qui vont y être joués.
Peut-être une première définition de la composition, et nous essaierons d'en parcourir quelques-unes pendant cette rencontre. Ce serait composer avec l'hétérogène et fabriquer une cohérence ou une trajectoire ou un continuum à partir de là. Alors cette invention d'un continuum, ce sens de cette manière de composer, on va la parcourir à travers des œuvres qu'on va retrouver, dont on a extrait finalement tout le matériau musical de cette rencontre. Une œuvre pour voix soliste, « Je brûle », dit-elle un jour à un camarade. Une œuvre pour voix et saxophone, on n'entendra que la voix ici, « Un lieu verdoyant ». Et puis deux œuvres qui ont été composées à l'IRCAM, écrites à l'IRCAM, « Voix Rex », une œuvre pour voix soliste, petit ensemble, instrumental, électronique. Et puis enfin « Apocalypsis », une œuvre pour quatre voix, un plus grand ensemble instrumentiste, et à nouveau une partie électronique. On reviendra certainement sur le rapport entre ces différentes œuvres au fil de la rencontre.
Laissons désormais la place au compositeur Philippe Leroux. Il nous présente son œuvre et sa technique de travail. Vous retrouverez par la suite les questions de Bruno Latour, les précisions du musicologue Nicolas Donin et les interprétations vocales de Valérie Philippin. Tout de suite, Philippe Leroux.
Moi, je dirais que c'est quelque chose qui est venu petit à petit parce que quand j'étais étudiant, jeune compositeur, il y avait une espèce de consensus sur l'idée que la façon de composer une musique se faisait toujours par, comme l'a expliqué Nicolas, par un germe composé. Et après, on développe ce germe, on le répète, etc., etc. Et c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, on crée un prototype matériel, on en déduit un second. Et c'est comme si on appliquait une idée, une vision au monde. Et moi, cette façon de faire m'a toujours gêné. Alors, pendant assez longtemps, j'ai pensé que c'était peut-être un problème. Et puis, plus je réfléchissais à la question, et plus j'observais comment je travaillais, et puis comment d'autres travaillaient, Et plus je me disais qu'en fait, on avait une lecture du répertoire et de la façon de composer qu'ont pu avoir d'immenses compositeurs comme Beethoven ou comme Bach, qui était celle-ci, mais que même chez eux, qui sont pourtant des compositeurs de la cohérence, on pouvait peut-être imaginer autre chose. Et j'ai toujours pensé que cette attitude-là, elle avait un grand atout, c'est qu'elle pouvait unifier, elle cherchait à unifier. Et pendant, je dirais, toute une époque, il était important d'unifier. On avait besoin d'unifier les pays, on avait besoin d'unifier la science, beaucoup de choses. Au bout d'un moment, il y a une espèce de seuil. Et d'unifier, on passe à uniformiser. Et j'ai senti, moi, profondément, ce danger de l'uniformisation. Et j'ai essayé de travailler autrement. Pourquoi ? Parce que je suis d'une génération qui a hérité du monde tel qu'il est. C'est-à-dire... je dirais le Dalai Lama, la bombe atomique, la télévision, les moines du Mont Athos. Bref, un univers extrêmement disparate, dangereux. Et je pense qu'on est dans une période où il est peut-être plus important de chercher la cohérence de ces choses, ou une nouvelle cohérence, plutôt que d'être dans une idée expansionniste, colonialiste. Donc, de ce monde décomposé, j'ai essayé un peu de trouver une façon de faire qui permette déjà de le comprendre. Et pour ça, dans la musique, c'est passé par la notion d'un concept qu'il faut sans doute revisiter, un concept purement musical qui s'appelle le phrasé. Trouver le phrasé entre ces choses. Et trouver le phrasé, en fait, c'est mettre en relation ces choses. Donc, c'est évidemment un travail qui porte plus sur la mise en relation des éléments entre eux, plutôt que sur la prolifération d'un germe qui va grandir. Et pour mettre en relation des éléments entre eux, j'ai choisi l'opération qui consiste à créer, ou en tout cas à imaginer qu'il puisse exister un continuum entre ces éléments-là. Et la notion de continuum, je dirais, est une acquisition majeure de la musique du XXe siècle, de la seconde moitié du XXe siècle, à beaucoup de niveaux. C'est-à-dire que il y a plusieurs niveaux de continuum. Il y a par exemple un continuum qui serait un continuum temporel. Un compositeur comme Gérard Griset a beaucoup travaillé sur cette question, c'est-à-dire l'idée de zoom temporel, de degré de proximité par rapport au son. L'idée qu'on entend un son de loin, et grâce aux moyens et aux techniques électroacoustiques, on peut se rapprocher de ce son. On l'enregistre, on zoome, on rentre à l'intérieur de la matière même de ce son. Donc on est dans une temporalité complètement différente. Donc je ne vais pas retracer le travail de Griset. Donc il y a ça. Il y a le continuum entre la hauteur, le rythme et le timbre, qui est aussi quelque chose qui est apparu dans ces 50 dernières années. Stockhausen a bien montré ça. Vous savez que si on prend un son aigu ou pas aigu d'ailleurs, mais enfin c'est plus facile avec un son aigu, et qu'on le ralentit, on le ralentit, on le ralentit, à la fin ce son qui était continu au départ, il va devenir une suite d'impulsions. Donc il va devenir du rythme. Donc il y a une espèce, il existe un continuum entre hauteur et rythme. Et de même, il existe un continuum entre la hauteur d'un son et le timbre d'un instrument, par exemple. C'est-à-dire que le timbre d'un instrument est lié à un certain nombre de composantes de hauteur. Si on retire quelques-unes de ces composantes, on ne va plus entendre un piano, on va entendre une flûte. Si par exemple on prend un son aigu de piano, on coupe l'attaque, c'est-à-dire les premiers transitoires, les premiers sons qui apparaissent à l'attaque, on ne va plus entendre un son de piano, on va entendre un son de flûte. Donc là aussi, il y a un continuum qui est extrêmement intéressant. Un autre type de continuum, c'est celui sur les micro-intervalles, c'est-à-dire qu'au lieu de travailler sur des demi-tons, on va travailler sur des phénomènes beaucoup plus petits, des quarts de ton, des huitièmes de ton, des seizièmes de ton. Et donc, si on joue ces seizièmes de ton les uns à la suite des autres, on va avoir l'impression d'un glissé, de quelque chose de continu, alors qu'en fait on est dans le discontinu, mais on va avoir l'impression de continu. Quand je parle de phrasé, je parlais de phrasé énergétique tout à l'heure, entre l'attaque de la balle de tennis, de la raquette qui va frapper cette balle qui n'existe pas, la course de cette balle qui n'existe pas, la chute de cette balle, il y a une logique. Et cette logique, on peut en faire une analogie avec du son. C'est-à-dire que si j'imagine un son qui représente cet élan et cette attaque, cette percussion de la raquette contre la balle, puis un silence qui va être cette course de cette balle invisible, et une chute, un écho de cette balle qui retombe, il y a une logique. C'est-à-dire que si la balle a été frappée fort, par exemple, le silence va être long et la chute va être plus forte. Si la balle a été frappée de façon très très ténue, le silence va être très court. Donc entre un élément et un autre qui sont reliés par du silence, par cette balle invisible, il y a une logique qui est de type énergétique, une logique gestuelle. Alors ça fait partie des choses sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé.
On va revenir là-dessus, puisque la notion de geste sonore est précisément un des éléments de la composition qui nous intéresse, évidemment.
Ça, c'est une chose qui m'est apparue très importante en musique, c'est que c'est bien sûr un geste qui produit le son, hein, le geste du musicien qui va frotter son archet, mais quand on écoute le son, on cherche à retrouver ce geste qui a produit le son. Ça, c'est quelque chose qui a été fondamental pour moi. Et dans la musique telle que je l'imagine, quand on entend une suite de sons, on cherche à trouver cette logique initiale du geste qui a produit ce son. Et je dirais qu'il y a un certain nombre de substituts gestuels, c'est-à-dire que, par exemple, là, je peux dire, il y a le pot de lait qui tombe. Ensuite, je peux dire, j'entends le son du pot de lait qui tombe. Puis je peux dire, j'entends un son qui est comme le pot de lait qui tombe. Ça sonne comme le pot de lait qui tombe. Et puis après, je peux dire, je vais construire un son qui va sonner comme si c'était le son du pot de lait qui tombe. Et à chaque fois, vous voyez que je m'éloigne plus ou moins du geste initial, mais je garde une certaine cohérence et une certaine logique par rapport à ce geste. Voilà, j'ai toujours imaginé qu'on pouvait élaborer sur ce type de concept.
Donc c'est un des gestes que nous allons maintenant entendre avec Valérie. Un extrait de « Je brûle ».
Je brûle, dit-elle un jour, un camarade, je brûle, tu ne vois pas, pas, j'ai entendu pas de tes oreilles, pas, et depuis je n'ai pas, c'est pas, ça ne t'entendrai pas, j'ai vu de tes pas yeux, et depuis je pas, ne sais pas, c'est pas, ça ne te voit, j'ai parlé par ta bouche, pas, et depuis pas, je n'ai pas, cesse de te nommer, pas.
Alors, dans cet exemple, le mot « pas », il joue ce rôle de cette balle de tennis, puisque entre chaque pas, qui s'incruste dans un discours continu, il y a une relation invisible qui se crée. Et à un moment, d'ailleurs, il y a cette rétention d'énergie que peut-être tu pourrais faire d'ailleurs encore plus retenue quand tu dis « et pas, je ne pas hein ». Cesse. Voilà, qu'on sente la rétention d'énergie. Le silence virtuel, comme cette balle de tennis, et le relâchement derrière.
On avait dit qu'on avait le droit d'échanger les positions, donc le compositeur peut aussi chanter.
Ah, oui, j'ai chanté. Oui.
Vas-y.
Je ne me suis même pas rendu compte.
J'ai parlé par la bouche, pas, et depuis pas, je n'ai pas. Cesse de te nommer.
Voilà, ça c'est parfait. Absolument. on peut peut-être écouter un autre exemple qui est aussi un continuum, mais alors donc là c'est chercher à créer une continuité entre un premier élément qui va être une phrase relativement longue et puis un dernier élément qui est juste un point sonore, une impulsion. Et l'idée est de créer une continuité entre les deux, et elle se fait de façon discontinue par un processus tout simple de transformation progressive du premier élément vers le second élément. Peut-être tu veux faire...
Dans un lieu, tu veux dire ?
Un lieu, ouais.
Seriez-vous insensible, vous tous qui passez sur le chemin ? Regardez, voyez ! Il a étendu un filet devant mes pas, il m'a fait trébucher, il m'a jeté dans la désolation où je languis tout le jour, il m'a fait basculer dans les ténèbres, il a usé ma chair et ma peau. Il m'a entouré d'un mur, il a brisé mes os, il a bouleversé, il a barré, il ferme, il m'a... Il... On me fait violence.
Je ne veux pas que tu... Ah,
Voilà, là c'est comme les cailloux du petit poucé. Hein. On a des éléments discontinus, mais le petit poucé trace une ligne continue et retrouve son chemin.
Donc le continuum, c'est du discontinu essentiellement.
Oui. C'est un continuum virtuel.
Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie. Valérie reste là-bas. C'est assez énigmatique, je dois dire, pour moi, qui sont des petits doodles, des petits bouts de papier de notre ami Philippe. Et les suivre est important.
Alors, vibrato d'intensité assez rapide.
Il faut expliquer que Valérie est en train d'improviser, en fait. Peut-être tu peux faire d'autres versions de la même chose.
Plus rapide, peut-être ou...
Plus rapide. Et une autre avec un vibrato, par exemple, très, très continu, très, très régulier.
Il faut que je comprenne, parce que là, donc vous êtes un compositeur qui n'écrivait pas de musique, mais qui vous faites des petits gribouillis sur du papier.
Ça commence en général comme ça.
D'accord. Donc, il faut ensuite expliquer comment ça va se transformer. C'est Nicolas, peut-être, il faudrait que tu nous donnes quelques explications, parce que comme il y en a plusieurs, il faut qu'on comprenne. Sur ça,
Oui, ce que ces idées qu'on va voir, là, dont on vient d'entendre la première, donc c'est tout autre chose que le donné hétérogène dont on parlait tout à l'heure. Là, c'est plutôt justement les choses qui viennent dans le flux de conscience, en quelque sorte, comme ça, tout à coup, pas forcément dans des moments de composition, d'ailleurs, pour ce que j'en sais.
Pas du tout, même, oui.
Pas du tout. Oui. Philippe m'a donné tout son dossier de travail pour voir Ex, donc dedans... il y a des tas de petites notes comme ça qui sont écrites sur des bouts de papier, tickets de métro et autres. Et on va voir que c'est quelque chose qui, en termes sémiotiques, pour dire ça un peu grossièrement, ont un statut très particulier parce qu'on n'y voit jamais vraiment strictement de la partition écrite avec des notes. On va y voir des schémas, des espèces de diagrammes, on va y voir des annotations verbales, on va y voir parfois la disposition spatiale compte, parfois non. Et tout ça, donc, sont des aides-mémoires qui, en fait, ne veulent dire quelque chose que pour Philippe, même si, en même temps, ils ont déjà une signification musicale. On peut les chanter, comme Valérie le fait.
Quand Philippe rencontre Valérie, elle est capable de les lire.
Ben oui, parce que là, par exemple, elle ne les a pas vues. Enfin, tout à l'heure, juste avant la séance, elle les a regardées pour la première fois.
Alors,
parle quand même.
Alors justement, on peut prendre un exemple qui n'était pas fait spécifiquement pour la voix.
On pourrait peut-être acheter à Philippe un carnet Claire Fontaine, comme moi, pour pouvoir noter les choses attentivement.
C'est un ticket de métro, c'est quoi?
C'est un programme de concert.
Auditorium,
oui, d'accord.
Il faut que tu arrives à chanter, ça. Il faut que tu arrives.
On parle de John Cage, d'ailleurs.
Sur une note ou un accord?
C'est sûr que pour moi, la chose importante, c'est l'idée d'un retournement. C'est-à-dire qu'en fait, on a une attaque et une tenue. Dans le début, si on lit de gauche à droite et de haut en bas, l'attaque commence le son comme un son normal.
Elle se déplace, hein.
Et puis elle se déplace à l'intérieur du son et à la fin, elle est à la fin du son. C'est-à-dire comme si le son s'était retourné. C'est ça l'idée. Hein.
C'est le dessin d'un geste musical qui t'a traversé la tête.
Voilà, et pour moi, c'est de la musique.
Mais qui est déjà presque comme une proto-partition par Valérie.
Oui, tout à fait. Mais ça, il y a une chose essentielle à ce qu'on en est à ce stade-là, c'est qu'il faut se souvenir. Donc, en fait, c'est un dessin aide-mémoire. Ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, Valérie peut le lire. Donc, ça pourrait être beaucoup plus qu'un aide-mémoire. Ce serait très intéressant d'écrire des partitions comme ça aussi.
Alors, avec une particularité quand même de ces notes qu'on voit, c'est qu'elles sont toutes monadiques. Elles ont l'air comme ça, autosuffisantes. Et en fait, pour l'instant, elles ne mènent à rien. C'est-à-dire qu'elles n'existeront musicalement vraiment que prises dans justement un mouvement, prises dans une logique d'écriture. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles souvent il n'y a pas de notation musicale. C'est-à-dire, en général, il faut ne pas littéraliser trop tôt, quoi. Ne pas être trop près de la détermination.
Ça, c'est important. Il faudra qu'on revienne là-dessus pour qu'on comprenne peut-être. Il y a une litière là-dedans.
Une séquence entière.
Ah, pardon.
Bon, alors là, j'imaginais, moi, quelque chose de beaucoup plus continu, en fait.
Le phrasé.
Ouais.
Ouais. C'est dur de phraser en détachant.
Suivant. Ça va.
Ah, il est déjà passé au suivant.
C'est correct, comme on dit au Québec.
Oh, 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 oh. Truc comme ça.
Ouais. Et celui-ci, alors?
Alors, ici, il y a marqué chromatisme quart de ton. Assez vite.
Très détaché. Et avec des consonnes, en introduisant des consonnes. Dans...
Attends, les consonnes, elles n'y sont pas là. Comment elle les a mis? Je les vois
et les
pas.
Les voyelles non plus.
C'est vrai.
Il faut bien qu'elles fassent quelque chose.
Alors pour ceux qui ont déjà entendu des pièces de Philippe comme Voirex, pour laquelle cette idée était destinée, on retrouve déjà des choses qui sont un peu des petites caractéristiques comme
ouais,
ça.
Peut-être la suivante. Ah, oui.
De plus en plus petit. Là, c'est le post-it. Le post-it.
C'est un post-it.
Vraiment très pingre, qui économise même ses post-it.
Je vois que Bruno a soulevé un de mes points faibles.
Attends, mais il y a quoi là?
Alors, il y a marqué soprano, il y a un ré, je ne sais pas si j'ai fait un ré.
Non, c'est un peu aigu, oui.
Glisse, trois petites notes et une arrivée sur un...
Peut-être tu pourrais l'accompagner plus au niveau énergie, justement. Oh, non. Ce serait peut-être plus proche de ce que j'imaginais.
Tu dis quoi? Ça ressemble plus
oui.
Alors, léger détaché. Voilà, d'opéra, qu'est-ce qu'il y a marqué là-haut?
Péniche opéra, ça compte pas ça.
Péniche opéra.
ça a changé de dossier à la
oui,
fin.
Oui, ça a changé de fonction.
Alors, léger détaché. Fort, presque crié.
C'est bien.
Sont presque chuchotés à hauteur approximative. Wunder, Wein.
Oui, oui, on peut dire ça.
Une langue imaginaire.
Oui.
Alors. Wunder, Wein.
Voilà, beaucoup de souffle, beaucoup d'air dans la voix.
Wunder, Wein.
Voilà. On y est.
Hein? Attends, moi, j'ai rien entendu. En plus, ça, c'est vraiment des notes, là. On est déjà dans
là, c'est là qu'il y a le plus de notes.
Mais ouais. C'est marqué que c'est approximatif.
Mais c'est approximatif.
Ah, pardon.
La notation verbale compte.
Wunderwein.
À juger.
Oui, c'est bon. J'ai beaucoup utilisé, mais pas du tout dans cette pièce-là. Dans une...
demi, très vite. Non, demi, c'est
Sforzando.
Ça
oui, Sforzando, hein, ça, c'est important.
Ah, Sforzando, pardon. Sforzando, très vite. Et donc, c'est un geste...
L'idée, il faut que ce soit un son très court, mais dans le son, il y a une vie. Il doit se passer dans ce moment extrêmement dense. Il se passe quelque chose.
Oh
c'est quand même pas facile comme exercice à faire en public, je vous avoue.
C'était pas ça.
C'est très très bien. Pour moi, là, il manque l'aspect de la densité absolue, si vous voulez, du noyau duquel... est né le système solaire. Une espèce de...
Il faut que tu fasses le Big Bang.
Un Big Bang.
Un wow. Big Bang avant, en cerise, en forme de cerise.
En forme de cerise. Ah. Bon.
Encore plus dense.
Bon.
Oui, mais ce que je fais, c'est trop cri. Ça devient trop un cri. Il faut arriver à maîtriser l'intérieur du son. Là, ça nous demanderait plus de temps, je crois.
Un Big Bang maîtrisé.
Oui, voilà.
Attends, essaye encore, ça vaut le coup d'essayer.
Tu l'entends, pardon ?
Essaye encore, ça, c'est super.
Est-ce que tu l'entends dans le médium, dans l'aigu, dans le grave ? Parce que ça peut.
Médium aigu, médium aigu.
Médium aigu.
Ouais. Un peu moins haut que là.
Ah !
Plus court, plus ramassé.
Ah ! Sauf ouais. Que c'est pas chanté là, c'est plutôt.
Voilà, alors plus chanté maintenant.
Ah, ouh, hi.
Oui.
Ah ! Ah !
On y est,
attends.
Voilà.
Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai pas compris pourquoi ça. Le dernier était plus chanté que le précédent.
Il s'est passé qu'on a maintenant on reconnaît l'identité de l'objet. C'est-à-dire que là maintenant il a une identité. Si je le mets dans une pièce comme ça, on va le reconnaître d'abord. Quand il reviendra, on le reconnaîtra. Et puis potentiellement, il contient déjà son expansion, son développement.
Et la version d'avant était une version brute en quelque sorte.
Oui, elle est.
Mais la version d'avant est criée. Là, je le fais chanter, c'est-à-dire avec un larynx beaucoup plus détendu, ce qui fait qu'il y a un mouvement laryngé là sur une note. C'est presque un, je sais pas comment on appellerait ça, parce que c'est un début de trémolo en fait. Si je fais.
C'est un début de trémolo.
Ouais. Ça c'est le trémolo. Je fais juste l'attaque.
L'idée, c'est un organisme extrêmement petit dans lequel on sent une vie interne. Mais il est extrêmement petit. Donc dès qu'il dépasse un peu, c'est fini, ça devient autre chose.
Et tu n'as pas le moyen de le noter ça autrement que par tes petites gribouillis?
Ah, alors après, oui, mais ça, j'ai dû faire ça sur un ticket de métro ou je ne sais quoi. Le stade d'après, je vais préciser beaucoup au niveau de l'écriture ce que je veux. Ceci dit, dans un cas comme ça, il va y avoir tout un travail qui doit se faire, c'est presque la tradition orale qui va s'installer là.
Hein. Avec l'interprète.
Ouais.
Donc tu vas aussi apprendre de l'interprète comment interpréter ton propre gribouillis.
Oui, c'est-à-dire que là, par exemple, ce que je vais peut-être pouvoir apprendre, c'est quoi dire. Par exemple, une fois qu'on aura travaillé avec Valérie, si je rencontre une chanteuse à New York ou je ne sais pas où, il va falloir que je lui explique comment faire. Si je veux...
Des queues de cerises, ça ne suffit pas.
Et là, peut-être je saurai. C'est difficile.
Celui-là, alors là, non.
Le plus dur.
Là, il n'y a voilà. Rien là. Il y a juste...
Quoi, temps réel, plus reniflement en même temps. En même temps ou alterner avec les...
Tu peux faire les deux. Tu peux nous faire deux propositions. Oui. Tu peux aussi imaginer des S discontinus. Voilà. Et puis tu pourrais peut-être essayer avec un reniflement un peu plus plaintif, plus proche de la plainte que...
Mais c'est des...
C'est ça l'éloquence, un reniflement un peu plaintif.
N'empêche que si je fais un vrai reniflement, ça va être un truc comme ça. C'est un truc du... Là, tu veux plutôt une aspiration nasale, on dirait.
Voilà, là, ouais. Là c'est... Là, c'est vraiment une idée dans sémantique, c'est-à-dire que là il faut qu'on sente presque... Après avoir pleuré, c'est ça, c'est après avoir pleuré, là, ce reniflement-là.
D'accord.
Oui, il est un peu voisé, tu peux le voiser un tout petit peu. Ouais, par exemple, oui. Quel exercice.
Fin. En chantant, la chanteuse se replie progressivement sur elle.
Sur elle-même.
Petit à petit noir. On y va alors ?
Alors, on t'a gardé une cerise sur le gâteau pour la fin. Bon, donc, on disait tout à l'heure, composer, c'est avoir des bonnes idées et les suivre. Alors là, on ne les a pas beaucoup suivies. On a imaginé leur trajectoire, en quelque sorte, en parlant de ce qu'elles pouvaient devenir. On en a pris un exemple, une de ces idées. Donc, qu'est-ce qu'elle devient dans la partition ? Qu'est-ce qu'elle devient, justement, quand elle est littéralisée ?
Donc là, c'est l'écriture après d'une des idées.
Donc, on va avoir d'abord une des idées, la voilà, que Valérie peut tout aussi bien, je pense, réaliser, improviser.
Ça, mais ensuite, on va essayer de s'approcher. De géologie, ça n'a rien à voir avec de la musique.
Et pourtant.
Ce qui descend est toujours en glissé ou arpège lié descendant.
Elle est formidable quand même.
Il faut une grande interprète pour pouvoir comprendre tes gribouillis, tu as trop de chance.
Parce que ça se rapproche, ce qu'elle fait se rapproche vraiment beaucoup de ce que j'imaginais. On peut écouter d'ailleurs la version finale telle qu'elle a été fixée sur un disque. L'idée qui domine, c'est une espèce de grand figuralisme musical. L'idée qui domine, c'est le texte, c'est qu'il se jette enroulé dans sa chute. Donc on doit avoir ces trois éléments. Le fait de se jeter, donc le fait de se lancer comme ça, l'idée d'enroulement et l'idée de chute. Et c'est pour ça que j'ai mis après ce petit élément pour dédramatiser la chute, c'est le « chut » qui s'adresse au public. Est-ce qu'on peut le réécouter?
Oui, moi j'aimerais bien. Mais on pourrait réécouter aussi la version de Valérie.
Une nouvelle version.
Donc Valérie,
forcément une nouvelle version.
Si tu fais une nouvelle version, jette-toi plus. Mais là, tu avais pas le texte, donc tu pouvais pas le savoir.
Ouais.
Mais tu te jettes enroulé dans ta chute.
Très bien.
Facile à dire, n'est-ce pas? Et ce qui pourrait être très intéressant, c'est de faire une version, comment dire, raccourcie, compressée de tout ça, très très rapide.
D'accord.
Bon, on va arrêter là parce que la pauvre.
Tu veux encore la version finale?
Très bref. En fait, dans ce dernier cas, le dessin est presque plus expressif pour quelqu'un d'ignorant de la musique que la partition pour quelqu'un qui ne la connaît pas.
Bien sûr.
Donc il y a une perte aussi, il n'y a pas seulement un gain. Au moment où on écrit, il y a aussi une perte.
Il y a une perte, comme je dirais, il y a une perte entre l'oralité et l'écriture. Enfin, si on la voit d'un certain côté, c'est-à-dire que quand on dit un mot, toute l'expression, si je dis « viens » ou si je dis « viens » ou si je dis « viens », si on écrit juste le mot « viens »,
c'est une leçon,
il manque des choses.
Une leçon commune de notre... Une personne que nous aimons beaucoup tous les deux, qui est Jousse.
Marcel Jousse, oui. Ouais, quelqu'un qui m'a beaucoup...
Qui est aussi cité par Green dans le selon précédent. Alors, la réincarnation de la parole fait partie de cette tradition qui est commune à toi et à Green. Nous allons maintenant passer à notre troisième version, car vous avez remarqué qu'il y a un ordre admirable dans ce séminaire. Et cette fois-ci, Franck Madeleine sera très content, car nous parlons du prototype.
Oui, alors donc là, un troisième sens de la composition, prototyper, on peut l'entendre dans plusieurs sens pour les affaires qui nous occupent ce soir. Si le prototype, c'est cet objet déjà fonctionnel, mais encore à venir, déjà détachable de ses conditions de production, mais dont l'effet ne peut pas être anticipé, on pourrait dire que, bien sûr, beaucoup d'œuvres musicales qui sont faites ici à l'IRCAM sont dans une logique de prototype, en particulier lorsqu'elles provoquent et qu'elles utilisent en concert des dispositifs technologiques, des logiciels, des programmes informatiques nouveaux. Donc, Voirex et Apocalypsis, deux des œuvres qu'on citait au début, sont deux œuvres qui n'échappent pas à cette règle, mais qui ont une autre qualité prototypique, si l'on peut dire. Il y a un projet compositionnel qui relie ces deux œuvres. Il n'y a pas seulement un projet par œuvre, en quelque sorte, mais il y a une sorte de programme de Voirex qui s'accomplit dans Apocalypsis ou qui se rejoue dans Apocalypsis. C'est-à-dire que la deuxième œuvre, elle utilise la première comme une sorte de prototype, ou plus précisément, elle identifie des éléments prototypiques à l'intérieur et elle les retraduit, rejoue. Rejoue est peut-être le meilleur mot dans un contexte musical.
Joussien.
Joussien qui plus est.
Le rejeu de Joussien.
Donc peut-être, Philippe, tu peux dire un peu plus précisément ces relations comme ça de reprise.
D'accord. Donc il existe une première pièce qui s'appelle Voirex, qui sert de corpus à une autre pièce. Et l'idée principale est de retravailler, d'aller plus loin, de retravailler les outils, les opérations qui ont eu lieu dans la première pièce, mais surtout de suivre la chronologie de toutes les opérations de composition qui ont eu lieu dans la première. Donc pour ça, c'est à la fois un travail que j'avais fait moi de noter chaque jour ce que je faisais, et puis un travail qu'on a fait avec Nicolas dans le cadre d'une recherche sur l'activité de composition, d'utiliser en fait la chronologie des opérations de composition de la première pièce pour générer la forme de la seconde pièce.
Je vous cite, il doit être possible de considérer la genèse de la composition d'une œuvre comme une œuvre.
Voilà, c'est l'idée maîtresse. Alors après, de quelle façon ça se fait? Une façon très simple, par exemple, dans Voirex, il y avait eu une séance d'enregistrement avec la chanteuse qui était face à des gongs ou à des tam-tams et que nous avons enregistré ici, à l'Espro, ici, dans cette salle. Donc, par exemple, ça, je le mets en scène musicalement. C'est-à-dire que la séquence d'enregistrement est mise en scène musicalement dans la nouvelle pièce. Ensuite, j'avais analysé ces sons, j'avais classé tous les accords. Et bien, ce classement d'accords, ce classement harmonique, il est aussi mis en œuvre dans la seconde pièce. C'est-à-dire que
Dans la seconde pièce, si vous voulez, on a un mouvement, par exemple, où on a 26 accords dans un désordre total, et petit à petit, ces accords s'ordonnent, se classent exactement de la même façon que ce que j'avais fait lors de la première, etc. Et on va comme ça jusqu'à la fin de la pièce, qui est en fait la répétition de la pièce. Donc là, c'est l'idée de répétition. Et puis, au niveau des outils, il y a eu quelque chose de très important, c'est le travail sur le geste, et notamment sur la calligraphie, sur le geste de la calligraphie.
En fait, peut-être on peut expliquer d'abord très simplement quel est le but, en quelque sorte, ou quel est l'objectif de la chose à travers un exemple, si Valérie veut bien s'y prêter.
Oui. Alors, oui, mais Valérie, est-ce que tu veux nous chanter une espèce de scat jazzy, mais en dessinant des lettres dans l'espace, et en fait, le profil de ton chant doit suivre les lettres que tu vas dessiner.
D'accord.
C'est pas fréquent d'avoir des interprètes. Des interprètes dociles.
Vous voyez, elle nous a fait un i, hein, vous avez entendu? Le point du i. Qu'est-ce que tu as écrit comme phrase ou comme mot?
Milieu.
Je savais bien qu'on était dans l'écologie depuis le début, c'est ce que je dis. Merci, milieu, c'est très bien. Ça, c'est quoi l'intérêt de ça? Parce que c'est un peu figuratif comme transposition dans l'espace d'une lettre.
Voilà. Alors, l'idée, en fait, c'est de générer un certain nombre d'éléments dans la pièce. Donc là c'est l'élément mélodique, hein, la suite de hauteur, la continuité de hauteur, par une logique qui part d'un geste vraiment de l'anthropos, quoi, hein, un geste vraiment profondément humain, parce que c'est vrai qu'écrire, on a tous passé des heures et des heures, hein, à dessiner ces lettres, etc. Et après, bon, là, ce qui domine, là, c'est l'idée de hauteur, mais enfin, c'est ce geste-là qu'on va contrôler beaucoup d'autres paramètres dans la pièce.
On regarde ce que cette idée que Valérie vient de résumer donnait dans Voirec, c'est-à-dire comment ça se réalisait. Cette idée de calligraphie planning, mélodique.
Oui, pardon. Bah,
on peut faire autrement, mais...
Non, mais on a passé beaucoup de temps à faire le planning, donc il faut le suivre.
Donc, ce que je fais là, c'est que je vous passe un petit extrait, comme ça, de la section de scat mélodique, donc inspiré de cette pratique jazzistique de diction très rapide, comme ça, sur des syllabes. Dans lequel, en fait, vous allez voir donc un curseur qui défile sur la partition, et j'ai marqué au-dessus des bouts de phrases musicales la lettre qui se trouve comme ça figurée. Alors c'est une figuration, évidemment, qu'on n'est pas censé entendre, enfin, on n'est pas censé se dire c'est un L, c'est un P, c'est un K, etc. Par contre, il y a probablement quelque chose de cette énergie cinétique de l'écriture. D'accord. Qui peut-être passe, est littéralisée, transposée, dérivée.
Donc, c'est pas que ça ressemble à la lettre, l'énergie est la même. C'est qu'il y a un médium différent.
Absolument. Peut-être quelque chose qui se transforme.
C'est-à-dire que là, c'est plus le geste de la main qui produit le son, hein, comme dans le cas du mouvement de l'archer. C'est le geste de la main qui crée une logique de mouvement continu. Voilà.
Ouais, ça va être trop rapide. Je sais pas si on a eu le temps de voir suffisamment vite. Il y avait un M, un N, hein, qu'on vient d'entendre, un L. La prochaine, c'est un L. La suivante, c'est un E. La celle d'après, c'est un S. Bon, etc., etc. Donc, on n'est pas très loin de ce que faisait tout à l'heure Valérie, sauf que cette fois-ci, c'est orchestré, littéralisé, précisé, et que finalement, la question de la coïncidence entre le geste fait à la main et puis le mouvement vocal n'a plus vraiment d'importance d'une certaine façon.
Dans Voirex, en fait, le mouvement calligraphique est très stylisé. Dans Apocalypsis, il l'est moins. Je peux vous faire écouter et vous montrer, par exemple, un petit passage de cette œuvre. Vous voyez, là, j'avais dessiné un P sur une tablette graphique, donc à la main. Ce P, si je le traduis, donc là je suis dans un logiciel de l'IRCAM qui s'appelle Open Music. Si je traduis ce P, vous voyez, sous forme de notes.
Ce qui, au passage, est une sorte de court-circuit temporel très bizarre. Parce que
il revient en arrière.
Toi, tu l'as dessiné comme ça, mais nous, on va entendre depuis le début une simultanéité. Hein, donc il y a une espèce de paradoxe temporel qui est présent là-dedans.
Donc je vais vous faire écouter, par exemple, tel que ça sortait du logiciel, hein, tel que ça sort du... Donc pas encore musicalisé, entre guillemets. Je vous fais écouter ce P. Que déjà il y a une proposition musicale tout à fait intéressante et on sent bien cette idée de variation de quantité d'énergie. Bon, j'arrête, hein. Je ne vais pas vous faire écouter tout le P. Alors, pour vous montrer ce que j'en ai fait, en tout cas, on peut écouter ce petit exemple, qui est en fait exactement ce P, de façon absolument littérale, sauf qu'il est joué par des vrais instruments. Donc, il est orchestré, instrumenté. Ça, c'est la première boucle du P. Et le reste du P, je l'utilise d'une façon beaucoup plus structurelle, en fait, pour avoir ce rôle de... Un peu comme le pas dans Je brûle, tout à l'heure, dans le cinquième mouvement de la pièce. C'est-à-dire qu'on a ces notes qui passent comme ça, et qui reviennent périodiquement, et qui assurent, en fait, le lien visible entre tous les événements du cinquième mouvement.
Là, je suis un peu perdu, parce que depuis deux séquences, on a des éléments qui sont des éléments, soit dans tes petits gribouillis, qui sont des éléments, disons, des idées qui traversent la tête que tu notes, et là, quelque chose qui apparaît formel. En quoi est-ce que ça nous rapproche de la première définition, c'est-à-dire où c'est une récupération de toute une multitude d'éléments disjoints qui se trouvent dans l'environnement et qui sont joués. Autrement dit, quelle est la ligne de partage entre le formalisme, parce que le dernier argument paraît tout petit peu formaliste, et compositionniste, si on voulait opposer les deux, mais peut-être que c'est moi qui veux forcer trop.
Moi, j'ai tendance à penser qu'il faut un équilibre entre les deux. Bon, déjà, le terme de formalisme me gêne un peu comme...
Le P n'est pas formaliste pour toi. L'usage du P, c'est une ressource qui est dans l'environnement et qui vient dans la musique.
Oui, puisque c'est, à la base, c'est
un P, un vrai P.
C'est un vrai P, c'est un vrai geste. C'est ma main.
D'accord.
Ou celle de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce cette espèce
donc
de
c'est la captation là. Du geste de la main qui évite, disons, l'élément uniquement formaliste qui
oui.
pourrait définir.
Oui. Et puis, c'est vrai que cet exemple de l'écriture là, ne va pas dans le sens de l'idée de récupération qu'on a pu évoquer au début. C'est autre chose. C'est un type d'opération.
Mais comment tu les relis, ces deux opérations? Donc, parce que ce qui nous intéresse, c'est de trouver un solfège des gestes de composition. Donc, la comparaison entre les différents gestes nous intéresse aussi.
Alors, ça, c'est vraiment une question intéressante, parce que j'ai vraiment beaucoup travaillé sur les modèles naturels, notamment. Et à chaque fois, il m'a toujours manqué un aspect combinatoire. Et pourtant, la combinatoire, c'est quelque chose qui est très, très éloigné de ma façon de faire. Mais j'ai toujours ressenti ce manque. Donc, j'ai toujours dû réintroduire un élément alors plus formaliste, comme tu dis, parce que, pour moi, il y a une nécessité à ça.
Mais la combinatoire, elle est ce qui permet de capter des éléments qui viennent de l'extérieur, comme le geste, comme l'énergie, ce que tu appelles le geste, l'énergie du P. Une fois qu'il est en quelque sorte absorbé
dans la composition, là, il y a un élément combinatoire qui se rajoute, en quelque sorte, c'est bien ça, oui. Enfin, qui permet de traiter quelque chose.
Oui, combinatoire ou simplement une médiation technique ou technologique, parce qu'on voit cette idée de faire ces calligraphies mélodiques, elle n'était pas venue simplement comme ça pour le plaisir de faire des figurations graphiques. Elle est née à un moment où tu travaillais sur ce logiciel pour faire des traits. Et puis, à force de faire des traits, des formes continues, enfin des formes linéaires qui se déroulent dans le temps, tu as voulu boucler justement, tu as voulu pouvoir revenir. Et à ce moment-là, il a fallu faire des développements spécifiques et puis d'un coup, fabriquer cette idée-là, ce que j'appelais ce court-circuit temporel tout à l'heure. Donc c'est ce travail de transfert de l'énergie cinétique, il ne se serait pas pensé sans une médiation technique.
Ça, c'est bien ce que ça va nous permettre de faire la transition avec la quatrième partie qui est très importante.
Je voulais juste dire que le formalisme a une chose très très intéressante qui lui est bien propre, c'est qu'il nous permet d'expérimenter des choses. C'est-à-dire que on peut pas être tout le temps à la pointe de notre sensation. On a besoin, il y a des moments, on a besoin de bousculer nos habitudes, de bousculer nos façons de faire. Et là, le formalisme est formidable. L'arbitraire est formidable, la combinatoire est formidable, parce qu'elle nous met en.
C'est un moment.
C'est un moment, oui. C'est pas une fin en soi.
Donc nous allons passer à la quatrième partie.
Alors on peut se demander en quoi composer ne serait pas musicaliser. Si ça n'a pas à voir avec la musique, avec quoi est-ce que ça a à voir?
On a déjà vu des tas d'autres choses.
Voilà, je vais essayer d'en donner un exemple un peu concret. Donc voilà encore un petit doodle de Philippe. Cette fois-ci, c'est une idée que Valérie pourrait peut-être chanter, mais plus difficilement, je pense, puisqu'il y a une idée d'emboîtement. Hein, donc si je commente un tout petit peu cette idée de forme musicale, donc ce sont des blocs dans le temps successif, séparés par des petites phrases de transition, toutes identiques, toutes continues. Et ce sont des poupées russes, en fait. Ce sont des poupées russes, mais mises dans le temps. C'est-à-dire que si on lit toutes les implications logiques apparentes de ce petit schéma, il s'agit d'une structure d'un morceau de musique qui est centré autour donc d'un bloc central, dont on voit qu'il est plus compliqué. Il y a toutes les poupées russes à l'intérieur. Il comporte une symétrie, une stricte symétrie. Il y a un nombre impair de figures et quelque chose au milieu. Les matériaux qui composent ces blocs ont une importance d'autant plus grande qu'ils viennent plus tôt. Leur degré de présence est plus grand. Vous voyez que le premier, si on imagine donc à chaque fois qu'on entend simultanément toutes ces catégories de musicales qui sont entrées les unes dans les autres, eh bien la première, on va l'entendre tout le temps. La deuxième, on va l'entendre seulement jusqu'à l'avant-dernière. Et puis seulement au milieu, on entendra cette espèce de petit zigouigoui.
C'est pas le temps, alors. Ça se déroule pas dans le temps.
Ça, c'est le temps.
Ah, d'accord.
Alors après, est-ce que ce sens-là du diagramme compte? Ça a été un grand débat entre Philippe.
Dans Voirex, il ne comptait pas du tout. Dans Apocalypsis, il est complètement remis en chantier, justement.
Donc, il a été réutilisé dans les deux.
Oui, ouais. Mais d'une façon, évidemment, différente.
Alors en fait, cette idée-là, elle n'a pas d'implémentation littérale très évidente. Parce que en fait, on s'aperçoit qu'il y a, disons, d'autres aspects de cette forme qui sont non écrits, qui figurent nulle part, mais qui sont évidents ou intuitifs pour Philippe quand il l'écrit. Par exemple, ceci. Je hais la symétrie. Il nous a expliqué ça quand on a interrogé sur ce qui se passait là. Je hais la symétrie, donc jamais je composerai une forme symétrique. Bon, évidemment, quand on voit ce truc-là, on aurait tendance à croire que si. Alors, il nous a donné un exemple. Il nous a dit qu'il était... Ça va peut-être te faire mal si je... Il a été en résidence pendant un moment aux Salines d'Arc et Senans et que ça l'a rendu fou à Lier parce qu'il a dû partir avant la fin parce que chaque moulure de chaque fenêtre est strictement symétrique de part et d'autre, donc de la...
Pour moi, c'est une image de l'enfer.
Tu n'es pas un classiciste, alors?
Absolument pas. Quand tout est pareil, absolument, à gauche et à droite, c'est terrible.
Donc, l'idée qu'on a vue tout à l'heure, en fait, elle n'est pas censée se musicaliser de façon... en donnant lieu à une forme symétrique. J'ai reproduit un brouillon de travail. On voit que vous reconnaissez peut-être très, très grossi, comme ça, le bloc central. On reconnaît notre petit zigouigoui, mais on voit beaucoup plus de matériaux. Donc, il y a un emboîtement beaucoup plus précis. Donc tout ça, c'est un seul des petits carrés de tout à l'heure. Et puis seuls les trois principaux ici sont figurés. Évidemment, quand on tient celui du milieu, on tient par déduction tous les autres, puisque tous les autres, il suffit de retirer ce qui vient ici au milieu de la section, et on a celui d'à côté, et ainsi de suite. Donc on pourrait s'imaginer qu'il suffise d'avoir spécifié le contenu musical de ceci pour ensuite pouvoir écrire tout le morceau. En fait, ça ne marche pas, parce que quand il commence à écrire, il s'aperçoit que ça voudrait dire mettre une section entière d'un seul matériau musical continu. Et en début d'un morceau, comme ça, infliger tout à coup pendant 25 secondes la même chose, 30 secondes, c'est exclu. Alors voilà encore un exemple d'implication pas prévu de cette première idée formelle qui était présentée. Et si maintenant on regarde ce qui s'est passé donc à la fin, donc voilà encore à nouveau, on reconnaît notre petit schéma avec les blocs qui sont numérotés. Ce qui est représenté ici en haut...
Et ça, c'est ton étude de son de
alors,
sa procédure
oui,
de
c'est
traitement.
Ça, c'est une représentation dans laquelle... En haut, on voit le flux temporel. On peut jouer ces sections. Donc, ce sont les différentes sections qu'il a isolées. Vous reconnaissez les petites transitions qui sont toutes en marron, là. Et puis ensuite, le bloc qui se remplit, qui se complexifie. Voilà.
Ah oui, il n'y en a plus de son.
Alors, voilà un exemple du début. Et puis, le même matériau vers la fin. Donc, quel est le point commun ici? C'est que ce sont des notes tenues, en gros. C'est l'idée principale qui se retrouve dans toutes ces petites sections-là. Et donc, le phénomène qu'on peut voir, c'est que si on se prend les brouillons donc, de travail de Philippe et qu'on les annote, eh bien, on peut voir les différences en fait, entre ce qui était planifié et puis ce qui a été effectivement composé. Ce qui a été planifié, c'est ce qu'on lit ici dans ce brouillon. À l'origine, donc, ce qui est prévu... À l'origine, ce qui est prévu, c'est cette forme en 9 parties. Et puis, au fur et à mesure qu'il écrit, eh bien, il est amené à casser en fait son plan, supprimer des sections, changer les procédures qui permettent de passer d'un bloc à l'autre. Et à la fin, on se retrouve avec un mouvement qui a un nombre pair de sections, donc qui n'a pas de symétrie stricte interne, qui n'utilise pas le même matériau dans les blocs opposés. Enfin, bon, je pourrais comme ça décliner toutes les différences. Ce qui ne veut pas du tout dire que l'idée d'origine est perdue. Simplement, elle s'est absorbée, elle s'est comme cristallisée ou elle a été consommée, en fait, tout simplement. Elle a été consommée dans une forme devenue musicale.
C'est ce que Laffenman appelle le structuralisme dialectique. De faire un
ça,
plan...
Je ne suis pas sûr que ça va nous éclairer. Non, je ne suis pas sûr.
Mais je crois que c'est une chose assez commune à un certain nombre de gens de faire des plans qui peuvent être très élaborés et après de les remettre en question vraiment en fonction de la perception.
Oui, mais ça, ce n'est pas du tout propre à la musique. On fait tout ça quand on fait la cuisine, quand on fait des livres, quand on fait la plomberie, ça c'est général. Par contre, ce qui est très particulier dans ce cas-là, c'est le fait que c'est... Comment est-ce que le geste devient musique? Parce que c'est ça que je voudrais essayer de comprendre, parce que ça s'appelle composer, c'est musicaliser, ça paraît assez évident, des compositeurs de musique. Mais en fait, non, on musicalise des gestes sonores qui proviennent de tout un environnement très divers et qui ne deviennent musique qu'à la fin. C'est ce mouvement-là qu'on voudrait essayer de comprendre avant de terminer. Et je crois que vous avez un exemple facile de deux types de musicalisation du même élément entre Valérie et toi.
Oui, alors ça, c'est un exemple dans l'idée qu'on ne doit pas... Il ne s'agit pas d'une illustration. Donc, par exemple, là, on a choisi un petit exemple de la fin de « Je brûle, dit-elle un jour un camarade ». Et j'ai demandé à Valérie de le chanter comme le ferait une chanteuse normale. Et puis...
Tu vas essayer d'une chanteuse normale.
Et puis, on va essayer peut-être d'arriver à ce que j'aimerais. Allons-y.
Le mot, la lettre vole, le mot qui vole, l'image qui vole. Le mot, la lettre ment au mot, qui ment à la phrase, qui ment à l'auteur, qui ment. La lettre rêve, le mot qui rêve, la phrase qui exauce. La lettre délie, le mot qui délie, l'image qui délie le jour. La phrase parle, le mot qui parle, la lettre qui parle, l'absence.
Bien.
C'est fidèle au texte ou pas?
Oui, oui, les notes sont là, tout est là. Alors, évidemment, j'ai un petit peu l'habitude de ce genre de situation. Ça m'arrive assez souvent. Donc là, je sais qu'il y a une chose à dire qui peut être très utile. C'est il faut que tu penses ça d'une façon, si tu veux bien, d'une façon beaucoup plus électronique, mécanique. Comme si c'était, par exemple, le premier son. C'est un son, il faut que tu l'imagines comme un son électronique. Et puis la fin... C'est vraiment une roue. Il faut penser l'aspect vraiment de la mécanique. Et c'est en ça que l'électroacoustique, par exemple, ou tous les phénomènes liés à l'électricité sont extrêmement importants pour nous aider à préciser notre pensée maintenant, même d'ailleurs quand on écrit de la musique purement instrumentale. C'est parce qu'elles n'inventent rien dans un sens, sur le plan musical. Par contre, elles nous aident à déaffectiser.
Et à entendre.
C'est-à-dire que là, je vais lui demander de retirer tous les affects, en fait. C'est de ça dont il s'agit.
Donc là, elle l'a joué lyrique.
Là, elle l'a joué lyrique, oui.
Et donc, elle l'a surmusicalisé. Oui. C'est pas ta musique.
Pas du tout. D'accord. Pour moi, c'est un cauchemar, ça. Parce que c'est quand même pas mal, ce qu'elle a fait. Mais c'est à l'opposé tout à fait de ce que je veux.
D'accord. Alors, c'est l'interprète. Maintenant, elle va l'interpréter comme toi, tu voudrais.
J'espère.
Ben, j'espère aussi.
Mais comme elle est très bien, elle peut aussi interpréter différemment.
Le mot.
Valérie, je vais t'arrêter. Ça, c'est très bien, mais le son doit décroître de façon beaucoup plus linéaire. Mm-hmm. Imagine vraiment un son électronique. Imagine que tu baisses le volume de ton truc, tu vois. Mm-hmm. C'est-à-dire que là...
Non, tu veux qu'on entende l'électronique
non,
derrière la voix.
Justement, non, je ne veux pas. L'électronique, là, elle m'aide à lui dire, mais retire cette habitude, parce qu'un son dur ou un son baisse, on décroît, forcément. Parce que c'est on a toujours fait ça en musique depuis.
Tu dis parce que le son baisse, on.
On décroît vite. Hmm. Alors que pourquoi décroître vite?
Donc pourquoi ne pas
décroître? Ce son-là, il doit. Le mot. Il faut l'emmener jusqu'au bout, ce truc-là. Sinon, ça n'a aucun intérêt dans un sens. Donc il faut retirer toute habitude, en fait, de... Ouais. Tu veux bien refaire, puis continuer? Elle est courageuse, franchement. Hein.
Le mot. La lettre vole, le mot qui vole, l'image qui vole. Le mot, la lettre ment au mot qui ment à la phrase. À l'auteur qui ment, la lettre rêve, le mot qui rêve, la phrase qui exauce, le mot qui exauce, la lettre délie, le mot qui délie, l'image qui délie le jour, la
Voilà, là c'est sûr qu'on se rapproche déjà beaucoup plus de ce que je souhaiterais. On aurait un peu de temps, on pourrait encore aller plus loin.
Oui, mais la première était très exagérée. Donc, quelle leçon nous devons tirer, nous qui cherchons une leçon de justesse dans cette affaire? C'est-à-dire que la première, il y a trop de musique, si je peux dire. Il y a trop d'habitude.
Il y a trop d'affect.
Il y a trop d'habitudes affectives qui se lient à des sons, d'accord?
Ouais.
Donc, toi, tu les enlèves les unes derrière les autres.
Oui. Et ça veut pas dire qu'il n'existe plus d'affect.
Bien sûr, mais c'est pas. Donc, ça, c'est vraiment. Ce qui nous intéresse dans cette série, c'est de retrouver d'autres types d'affections, justement. Enfin, c'est vraiment la leçon d'éloquence par excellence, c'est-à-dire changer le solfège des passions, en quelque sorte. En particulier, bien sûr, derrière tout ça, il y a changer le solfège des passions politiques, qui sont aussi dans une certaine tonalité, dans un certain type de lyrisme. Et c'est non pas qu'il faille passer du lyrisme à l'absence de lyrisme, mais modifier la répartition des affects. Donc là, je voudrais bien sûr de comprendre la différence que tu fais entre la première version et la deuxième version.
Ouais. C'est pour ça qu'on est souvent obligé de brouiller la perception, de commencer par brouiller la perception, parce qu'on doit, on demande à l'auditeur, lui aussi, il doit changer la façon d'écouter, parce qu'il attend quelque chose. En fait, l'auditeur, en général, il attend la première version, là.
Tu reprendrais le début de ta première version pour qu'on voit bien le... Excuse-nous.
Le mot, la lettre ment au mot qui ment à la phrase, qui ment à l'auteur qui ment. La lettre rêve, le mot qui rêve, la phrase, etc.
On voit bien là
Oui, là, il faudrait commencer par atteindre la neutralité la plus absolue, en fait.
Mais pas pour arriver à l'absence d'affect.
Et après, l'absence est importante.
Voilà, après, on construit une autre expression. Elle est là. Moi, je l'ai pensée, l'autre expression, dès le début. Elle est là, potentiellement. Et...
Sauf que tu dois trouver des chanteuses comme elle.
Oui, voilà, oui, c'est pas facile, oui. C'est vrai.
Et donc, nous arrivons à notre dernière partie, parce qu'on est impeccablement dans les temps. La composition comme dispositio.
Dispositio, pardon.
Où est notre latin, frère ?
Mes excuses.
Alors là, on est dans une version plus ouverte. On va peut-être d'ailleurs ouvrir un peu la discussion avec, si le public le souhaite, puisque dispositio est un terme qui est commun à la rhétorique, évidemment donc à l'éloquence. On admet que le mot éloquence couvre à la fois la rhétorique et la démonstration. Et c'est un terme qu'utilise beaucoup, et qu'il y a même une pièce qui est de ce terme, donc entre l'invention et la disposition dans la version classique de la rhétorique, et qui est évidemment très important si on voulait un peu essayer de lier à la justesse au sens musical et à la justesse au sens politique du terme. Et avant ça, il faut qu'on comprenne, et je crois que tu as un exemple d'une œuvre que tu es en train de faire, que tu viens de finir, je crois, à l'hôtel hier soir, d'après ce que j'ai compris, et qui porte sur la réutilisation, non pas comme on l'a vu tout à l'heure, de Apocalypsis, qui reprend des éléments de Voirex, mais des idées de Voirex. Là, il s'agit d'éléments vraiment sonores, c'est vraiment du cannibalisme, en quelque sorte, d'aller prendre des morceaux à l'intérieur d'une autre pièce et de les transposer dans la nouvelle, un peu comme on fait avec des tanks, si je peux me permettre cette métaphore, d'aller chercher des pièces détachées dans un tank pour en refaire marcher un autre. Enfin, la métaphore n'est pas formidable, je reconnais. Ce qu'on appelle cannibalisation, qui est une autre façon de faire des prototypes et de réutilisation. Et donc là, il y a une autre opération qui est plus proche de la combinatoire que tu vas nous montrer.
Donc l'exemple que je vous propose, c'est dans l'idée de... Moi, j'ai toujours l'impression qu'on reçoit un flux sonore, au sens de Husserl. Le flux nous arrive et à l'intérieur de ça, on va aller choisir des choses. Et je pense qu'on a à réorganiser ce flux sonore qui nous arrive. On n'a pas à être passif devant cette chose. Le premier acte, à mon avis fondamental au niveau de la composition, c'est celui qui consiste à changer l'ordre des choses. Donc évidemment, c'est une opération qui semble simple, simpliste, mais qui est complètement à redécouvrir. Et c'est vrai que, je dirais, même dans la vie courante, on a tendance à penser que on voit quelqu'un et immédiatement on va parler avec lui, on va communiquer avec lui. Et moi, j'ai envie de dire, mais avant de parler, on peut peut-être être ensemble. Il y a cette idée-là avec laquelle je fais une analogie avec le sonore, c'est-à-dire deux sons peuvent être d'abord ensemble, et puis ils peuvent être l'un à gauche, l'un à droite, l'un à gauche. Il y a toute une et tout va changer en fonction de ça. C'est vraiment une opération fondamental. Alors là, c'est ce que j'ai fait, c'est que je vais vous faire écouter un petit exemple d'un extrait d'une œuvre d'orchestre qui a une dizaine d'années, enfin un peu moins, et dans lequel les choses enfin l'exemple que vous allez entendre, tout se passe de façon continue. On s'arrête sur rien. Il n'y a pas d'élément principal. Tout est transitoire. Alors dans ce flux-là, je suis allé chercher deux éléments. C'est celui-ci qui vient de ça, en fait. Vous voyez ? Je vais juste chercher ce petit passage-là. Même ici. C'est-à-dire que là, si je prends que ça... Déjà, il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'il y a des sons qui n'existent pas, c'est-à-dire des sons qui sont uniquement des résonances de ce qui précède, qui vont être là d'un seul coup. Donc il va falloir complètement réimaginer, à écrire de façon complètement différente. Là, il y a tout un travail de réécriture, d'invention d'un nouveau type d'écriture, de nouveaux réflexes d'écriture par rapport à ça.
Ce qu'il faut bien expliquer, c'est que ce que tu joues là, c'est donc un extrait de l'enregistrement de cette œuvre d'orchestre ancienne, et ce que tu vas écrire à partir de ça, c'est une autre œuvre d'orchestre Donc écrite pour des instruments et pas quelque chose qui va être juste diffusé par des haut-parleurs. Voilà. Il n'y a pas un montage comme on le voit ici.
Actuellement, même dans ma chambre d'hôtel, j'étais gêné parce que j'étais petit, j'ai des feuilles partout avec des partitions, etc. Et j'ai des ciseaux et je vais couper dans les partitions d'orchestre.
C'est très physique. Là.
Je vais couper des petits bouts, je les colle. Et je suis vraiment... c'est un travail un peu particulier.
Donc ça, c'est une version...
Alors, là je vous d'après. Ai fait écouter, disons, l'élément principal. Le deuxième, c'est celui-ci. Voilà. Et j'ai choisi ça.
Je veux dire, t'as coupé au ciseau, dans la partition.
Là, j'ai coupé au ciseau dans le son, mais maintenant, je coupe dans la partition au ciseau.
D'accord.
Voilà. Oui, c'est une nouvelle technique.
Plus moderne.
Mon éditeur était absolument fou furieux, je peux vous dire, quand il a vu la partition, parce que je demande aux copistes des choses invraisemblables. C'est-à-dire que c'est un travail sur l'envers. Ça s'appelle Envers Symphonie, d'ailleurs. Donc, je travaille beaucoup sur le fait d'inverser. Alors, je vous fais écouter un exemple de différentes dispositions. Vous voyez, ça, c'est ce petit élément. Voilà. Je le répète. Je le mets à côté de lui-même. Sans lui faire subir aucun changement. Deuxième élément, répétez aussi.
Ça, c'est la juxtaposition pure et simple.
C'est de la pure juxtaposition, il n'y a aucune superposition, aucun traitement, aucune transposition, aucun changement. Et vous voyez que ces sons, du coup, ils prennent une fonction complètement différente. Un caractère et une fonction différente.
Donc on finit par un exemple au contraire extrêmement simple.
Oui.
De l'élément le plus élémentaire.
Il faut brouiller les choses, mais après il faut revenir, il faut redécouvrir le pourquoi des choses et le comment.
La voix et l'éloquence dans la composition musicale, c'était le titre de cette conférence animée par Bruno Latour, Philippe Leroux, Nicolas Donin et Valérie Philippin dans le cadre du festival Agora en juin 2010, organisé par l'IRCAM. Retrouvez sur notre site une autre communication à l'occasion de ce festival Agora 2010, celle d'Archia Kunt, chargée de coordination entre la recherche scientifique et la création artistique à l'IRCAM, son titre « La temporalité en informatique musicale, de la composition à la performance ». Des conférences enregistrées par l'IRCAM et retransmises sur le site de canalacademy.com. Merci de votre écoute et à bientôt.